la galerie Laurence Bernard à Genève, dans l'exposition « Excepté le soleil » de Stéphane Tidé, qui ouvre demain et qui sera visible jusqu'au 24 octobre. Bonjour Stéphane, merci.
Bonjour.
Donc pour aborder en fait ce projet d'exposition, j'avais envie en fait de te proposer un extrait de texte qui me semble assez éloquent par rapport à ton travail en général et à cette exposition, qui est en fait une introduction, donc ça tombe bien, qui est l'introduction de l'esthétique de la disparition de Paul Virilio, qui écrit « L'absence survient fréquemment au petit déjeuner et la tasse lâchée et renversée sur la table en est une conséquence bien connue. L'absence dure quelques secondes, son début et sa fin sont brusques. L'essence demeure éveillée, mais pourtant fermée aux impressions extérieures. Le retour étant tout aussi immédiat que le départ, la parole et le geste arrêtés sont repris là où ils avaient été interrompus. Le temps conscient se recolle automatiquement, formant un temps continu et sans coupure apparente. Les absences peuvent être très nombreuses, plusieurs centaines par jour, qui le plus souvent passent complètement inaperçues de l'entourage. » Donc en fait, j'ai choisi en fait cette introduction qui est une définition de la pycnolepsie et qui parle de l'absence, de ces absences qu'on a dans le quotidien et dans des situations familières où il y a un moment donné où la conscience vit quelque chose de désynchronisé. Enfin, on est dans une fracture avec le réel et je trouve que ça parle assez bien de ton travail qui part souvent du réel avec des objets réels et qui fait écho au titre que tu as choisi pour l'exposition, donc « Excepté le soleil ». Je voulais savoir un peu plus sur ce choix.
Alors, ce titre, il vient de plusieurs choses, en fait. Déjà, peut-être de m'intéresser à ce qui se passe dans les ombres, en fait. Ce qui est moins apparent, moins visible. Il y a la sorte de fantasme aussi qu'on a de pouvoir tout embrasser, peut-être. Alors, peut-être pour être un peu plus réaliste, excepté le soleil. Et puis, il y a question aussi d'un possible voyage fantasmé et cette impossibilité de l'approche de cet astre. Voilà, je crois que tout simplement, il y a question de déplacement d'ombre et de lumière.
D'accord. Donc là, voilà, à l'entrée de ton exposition, on découvre une capsule.
Ouais.
Qui est en fait construite en bois, mm-hmm. et mise à l'arrêt. Donc il y a peut-être à la fois cette invitation au déplacement, en même temps il est rendu impossible. Mm-hmm. Et ça, c'est des choses qui t'intéressent.
Cette capsule, oui, elle vient donc de la rencontre du livre de Henry David Thoreau Walden. Où il est donc question de cette expérience d'aller vivre pendant 2 ans isolé au bord d'un lac dans la forêt. Et cette rencontre impossible avec la recherche spatiale, et notamment la mission Mercury 7, mission américaine qui envoyait des hommes dans l'espace, dans des capsules. Et j'y trouvais deux choses qui me paraissaient finalement... similaire dans les deux histoires, c'est la notion d'un homme seul, un humain perdu dans la nature, qu'il soit dans une cabane en bois ou dans une capsule spatiale. Quelque part, l'espace est une forme de nature aussi. C'est juste un peu plus loin, mais peut-être un peu plus près d'autre chose. Et donc, dans ce rapport aussi de la contemplation qu'on peut avoir à partir d'un abri, et cette solitude qu'il peut y avoir dans un abri, cette autonomie qu'on est obligé d'acquérir. Et donc voilà, j'ai décidé donc de fabriquer une une réplique à l'échelle 1 de la capsule Mercury 7, mais fabriquée comme une cabane, donc en charpente, en technique de charpente, en red cedar et acacia. Et l'intérieur, et notamment tous les instruments de bord, sont remplacés par des synthétiseurs modulaires analogiques, donc des techniques musicales électroniques assez anciennes, on va dire, en tout cas, qui font écho à des recherches musicales qui avaient lieu dans les années 50-60 sur la côte ouest américaine. Et voilà, et donc fabriquer aussi un système de musique autonome, c'est-à-dire que la musique aussi soit autonome, trouve sa manière de se fabriquer elle-même toute seule, de manière aléatoire. Et donc on a cet objet posé, ça m'intéresse aussi cette position de l'objet posé, c'est un objet qu'on imagine toujours en déplacement, mais là, une fois posé, il est comme mal à l'aise, il a le nez penché, donc il est comme un objet inerte, hein, et pourtant, avec le son qu'il fabrique, il y a quand même un petit semblant de vie, de quelque chose qui s'allume encore. Et on peut entendre des passages transmis aléatoirement que j'ai sélectionnés, qui m'intéressaient notamment sur la contemplation de la nature et la vie solitaire donc de Walden. Donc on entend de manière aléatoire quelques petits chapitres comme ça sélectionnés. Donc j'ai découpé tout le livre en peut-être une centaine de petites phrases.
Sometimes, on Sundays, I heard the bells, the Lincoln, Acton, Bedford, or Concord bell, when the wind was favorable. A faint, sweet, and as it were, natural melody, worth importing into the wilderness. At a sufficient distance over the woods, this sound acquires a certain vibratory hum, as if the pine needles in the horizon were the strings of a harp which it swept.
D'accord. Et en fait, cette capsule, elle... Tu as construit aussi l'exposition sur la notion de voyage immobile. Et en fait, peut-être qu'on peut essayer de revenir sur cette notion qui est le voyage immobile. Ou est-ce que c'est une manière aussi de voyager en étant à l'intérieur même parce que dans Walden, en fait, il n'est pas vraiment à l'extérieur de la société, il est en autonomie, en autogestion, et en même temps, il reçoit beaucoup de monde, et en fait, il crée un point d'ancrage, d'observation de la société.
Tout à fait, il est juste à côté.
Qui est juste à côté, avec une dimension critique. Et en fait, je trouve aussi que dans cette capsule, à la fois, c'est un objet... Enfin là, pour le coup, on est certain de ne pas pouvoir atteindre le soleil parce que elle est vraiment précaire et elle ne nous protège pas. Il y avait aussi cette notion dans ton travail qui est assez fréquente de fragilité ou de mise en danger.
Ouais.
Peut-être presque même de naufrage, entre guillemets.
Oui, oui, oui. Il y a cette, effectivement, elle est un peu échouée, cette capsule. Et puis, il y a aussi ce... finalement un peu ce rêve de gosse, rêve d'enfant, d'être comme ça, en même temps construire sa cabane au fond d'un jardin, dans les bois, et en même temps ce désir d'aller vers des endroits inatteignables. Et donc je voulais aussi que cet objet soit pauvre dans ses matériaux, qu'il soit brut aussi. J'ai choisi des bois bruts, des bois de charpente qui sont pas poncés, enfin, voilà, y a tout ça m'intéresse dans l'aspect très simple de la fabrication, même si l'objet est complexe pour des questions techniques, mais la pauvreté des matériaux me tenait à cœur. Mais je crois que c'est ce rapport effectivement à cette possibilité d'ailleurs et en même temps cette tristesse quelque part de se sentir ancré quelque part et de ne pas pouvoir s'en échapper. Donc il y a aussi, j'espère aussi que cet objet puisse joindre ces deux notions-là.
Mmh. Qu'en fait le voyage entre guillemets immobile que tu proposes est peut-être aussi plus un voyage mental où on peut se projeter dans la sculpture, qui est à la fois une architecture.
Je crois que c'est la manière de voyager la plus forte reste mentale. Et dans cette exposition, je me suis attaché à des explorations très proches de notre quotidien, des choses qui ne sont pas lointaines finalement. Il y a ces petits déplacements qui me permettent de proposer de l'ailleurs.
Oui, d'accord. Puis justement, tu parles de l'esthétique un peu modeste, de la capsule, des choses qu'on pourrait dire qui sont même parfois dévaluées, puis peut-être ou des choses qu'on ne regarde plus du quotidien, de notre environnement immédiat. Et dans cette idée de voyage immobile, tu nous présentes également une série de cales de portes, mm-hmm. Qui sont également en bois, qui sont des objets qui sont aussi des objets immobiles, qui renvoient...
Ce sont des objets immobiles. Alors, je les présente sous forme de photographie. Donc, c'est une série de photographies de ma collection de cales de portes.
D'accord.
Donc, qui viennent de différents pays, de différents endroits. C'est un objet qui m'intéresse, déjà parce qu'il a un lien directement avec la sculpture. C'est toujours la même forme et en même temps toujours différente. Et puis, cette série s'appelle « Les formes du passage ». Puisque c'est ce que j'appellerais des objets transitionnels, donc sont des objets qui nous appellent à aller ailleurs, à aller plus loin, des objets donc de passage. Et leur forme elle-même, finalement assez aérodynamique, nous propose comme ça une petite élancée. Un objet qui maintient la porte ouverte.
Oui, il y avait aussi pour moi cette notion, peut-être qui répond aussi à cette notion de voyage immobile, c'était justement ce rapprochement des temps où tu dis tu prends des machines de l'époque de cette expédition avec un matériau qui est plus difficile à dater et le fait d'additionner les deux dans un temps présent. L'exposition, en y repensant, j'avais vraiment l'impression que tu es plus dans un voyage dans le temps que dans l'espace. En fait, ce qui est aussi intéressant dans cette capsule et peut-être qu'on retrouve dans certaines de tes pièces, c'est justement le fait que tu proposes un habitat, enfin ici une œuvre qui est un peu la sculpture, l'architecture, la pièce sonore, et en même temps, on ne peut pas pénétrer pénétrer dans cet habitat à la même manière que la cabane que tu as pu produire avec de la pluie ou ces balançoires qu'on ne peut pas utiliser.
J'aime créer et j'ai besoin moi aussi, lorsque je suis public, d'avoir des zones de frustration.
Okay.
Pour pouvoir... j'aime quand quelque chose m'attire. Si ça m'attire, c'est parce que je ne peux pas l'atteindre d'une certaine manière. J'aime aussi qu'il y ait cette distance. J'aime aussi ne pas rendre un spectateur occupé. Quand tu parles de cette sculpture, le portique, qui est fermé comme ça par des vitres, c'est la possibilité l'envie d'arrêter un objet dans le temps, l'interdire aussi, et se sentir extérieur à cet objet. Là aussi, dans cette capsule, on peut la regarder, on peut tourner autour, on entend ce qu'elle fabrique, on peut regarder à l'intérieur et voir ce qui s'y passe, mais elle a besoin d'être un peu inerte aussi. Il faut que ça reste un objet étranger. C'est important aussi que l'objet que je montre garde son étrangeté. Autant j'aime jouer, autant j'aime pas que les objets deviennent des jouets.
Ouais, d'accord. Ouais, si tu préfères proposer un usage potentiel.
J'aime l'idée de l'usage potentiel, oui.
Ouais. D'accord. Donc on parle de voyage, donc de déplacement, et c'est quelque chose qui est assez présent dans ton travail.
Mm-hmm.
Plutôt des sculptures habitables ou des sculptures nomades. Par exemple, tu proposes cette capsule ici, il y a certaines œuvres avec des tentes, etc. Puis c'est comme si c'est une manière de créer un territoire. Enfin, moi, ça me donne cette impression de créer un territoire ou une situation intégrale, comme cette capsule, la cabane, la salle de bal que tu as créée intégralement. Donc à la fois de dessiner un territoire, puis en même temps, ce territoire, c'est un territoire qui n'est pas habité.
Mmh.
Et qui donne un peu la sensation de rester à la fois, d'être dans un exil, et en même temps d'être partout et nulle part en même temps.
Mais peut-être ça vient du fait que les premiers musées que j'ai découverts enfant, finalement, étaient des musées d'histoire naturelle. Et toutes les choses qui venaient y étaient montrées, effectivement, sentaient tous un territoire d'ailleurs. Hein, elles appartenaient toutes à quelque chose. Et en même temps, j'étais fasciné par ce geste de déplacement, de prendre quelque chose qui vient d'ailleurs et de le mettre ailleurs, de le mettre dans un espace. Et cette question de formes qui deviennent inertes par ce déplacement m'a toujours beaucoup intéressé par ce que ça provoque. Parfois, je parle de coma des objets, parce qu'ils ne sont pas morts. Ils ont encore un potentiel, ils sont en latence. Et ils amènent avec eux aussi toute l'odeur de leur provenance, le parfum d'où ils viennent.
Ouais, comme un ensemble de temps un peu suspendu, comme ça. Et justement, dans ton exposition, on a la sensation d'arrêt sur image, de temps suspendu. Peut-être on peut parler aussi des nouvelles sérigraphies que tu présentes. À partir d'un geste, tu modifies une image qui est connue de tous, une map monde. Donc
ouais.
Je voulais savoir un peu comment tu as construit cette pièce et pensé cette pièce.
Eh bien, ce sont donc des sérigraphies qui s'appellent les tâches de monde et qui partent à l'origine de map monde vectorisé utilisé par les géographes, donc avec un détail très précis de tous les contours des continents, auquel j'ai appliqué une très forte torsion de manière à ce qu'elle ne soit plus qu'une sorte de trait pictural, une élancée d'un geste qui rappelle un peu des gestes de l'expressionnisme abstrait, et j'aimais jeter l'image du monde sur une feuille blanche.
D'accord. On a l'impression que comme si, c'est comme si le monde un peu s'effondrait, sur lui-même. Et du coup, en écho avec ton titre, excepté le soleil, on a l'impression que c'est un scénario un peu, pourrait dire, dystopique ou critique, en tout cas d'objets justement normatifs qui sont encore une fois comme ces vaisseaux qui cherchent à conquérir, connaître dans le moindre détail, cartographier l'ensemble du monde. Là, tu proposes quand même un geste assez radical, en fait, de déformation de notre habitat, en fait. Mmh. Et je ne sais pas si cette dimension un peu dystopique t'intéresse, ou j'ai par exemple en tête l'image du terril, où justement les confettis sont passés en noir et c'est la fin de la fête et quelque chose comme ça d'assez qui presque tend vers la fiction. Enfin,
ouais, je crois que je dirais que je travaille avec un joyeux fatalisme et j'aime un peu tordre les choses. Essayer de voir quelles substances elles peuvent avoir. Je pense que c'est le rapport aussi d'inadaptation au monde. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde, mais je ne sais pas forcément l'utiliser, il faut bien que je fasse quelque chose avec ces choses qui m'entourent. Et parfois, simplement les manipuler, très simplement, leur donne une autre essence. Enfin, je pense que c'est le propre de tout artiste. Mais donc voilà, là, il y a tout un tas de gestes dans cette exposition qui s'articulent autour de ces petites manipulations. Donc là, effectivement, tordre le monde pour le proposer comme un jet de peinture, comme un jet d'encre. Je le vois pas comme un effondrement, je le vois plutôt comme lui donner une nouvelle dynamique.
Ouais, d'accord. Puis je trouve, j'ai l'impression que, en tout cas dans cette œuvre, tu as vraiment à la fois une dynamique de construction où tu proposes une nouvelle image, comme tu dis, redynamiser, réactualiser une image connue, la charger à nouveau, la donner à voir à nouveau. Puis en même temps, il y a quelque chose qui s'approche un peu d'un sentiment de destruction, en fait, de renversement, en fait. Mm-hmm. comme ce terril où les choses sont renversées et on rappelle leur usure et leur usure possible, en fait.
Oui, je pense que c'est peut-être parce que j'y trouve une certaine beauté à ces choses usées.
Et là, en face de nous, justement, on a une vidéo où il y a un ensemble de fleurs qui prennent, que tu brûles.
En fait, oui, c'est une vidéo qui s'appelle Soleil, au pluriel. J'aimais justement intégrer cette vidéo à cette exposition qui s'appelle Accepter le soleil. C'est un geste très simple où avec un bâton je brûle méthodiquement un à un les pissenlits en graines d'un pré, donc comme un labeur, comme un travail. C'est une manière en même temps d'allumer et une manière d'éteindre, puisque ce sont les akènes, donc les graines de ce pissenlit qui d'un seul coup s'allument un peu comme des petits astres. Il y a ce moment très fugace qui d'un seul coup fabrique comme une mini-étoile. Et en même temps, c'est un acte d'extinction, puisque c'est aussi l'acte d'éteindre une espèce. Graines à l'inverse de souffler dessus pour les éparpiller se retrouvent en cendres. Voilà, c'est juste un geste. J'aime souvent travailler un peu à la manière de mes gestes enfantins que j'ai pu avoir et les reproduire ou les réinventer en tant qu'adulte. Et j'aime aussi la conséquence que prend. Les conséquences, le fait de rejouer quelque chose d'un enfant, l'innocence d'un geste enfantin en tant qu'adulte prend une autre ampleur. Et ça, ça m'intéresse, cette distance-là, cette déformation.
Mais il y avait une autre question que je souhaitais te poser, qui rejoint peut-être justement ce geste d'allumer ou de brûler quelque chose pour créer un événement et du coup produire une œuvre et avec, qui fonctionne aussi assez bien avec les cartes, où tu es dans une dialectique, j'ai l'impression, souvent dans tes pièces, qui est vraiment entre l'apparition, la disparition, ce qu'on reconnaît, en même temps ce que tu fais disparaître ou que tu altères, tu transformes. Est-ce que c'est une manière pour toi, comme tu dis là, de rejouer des gestes enfantins, de perturber une perception qu'on a, on pourrait dire anesthésiée. Tout à l'heure, tu parlais de coma pour les objets, mais on pourrait parler de regard anesthésié ou par les habitudes. Est-ce que ça répond aussi à cette envie d'attirer l'attention, de regarder à nouveau ce qu'on a trop vu?
Oui, sûrement. J'aime assez travailler avec des choses très identifiables. Effectivement, cette question d'oubli des choses qu'on ne voit plus ou que je ne vois plus et comment s'exercer à trouver encore l'œil qui permet de les reconnaître différemment. J'aime assez la notion d'étrange familiarité. Et puis dans ces altérations, je crois que ça vient beaucoup, je parlais du rapport à l'enfance, j'ai aucune nostalgie vis-à-vis de l'époque de l'enfance, j'ai pas aucune envie de retourner dans une enfance. Par contre, j'essaye de garder, c'est aussi une manière de réinventer une enfance, donc la liberté aujourd'hui de s'en inventer une. Et surtout garder, il me semble que c'est un moment de la vie où le rapport d'émotion vis-à-vis du monde est encore très exacerbé, c'est un moment où il y a peu de filtres encore. Et je cherche souvent ce moment-là. Et sûrement parce que par ma vie, un des moments très fort où j'ai cru comprendre, je ne savais pas qu'il existait le mot art, artiste, ces choses-là, mais je devais avoir 7-8 ans et mes parents à l'époque reconstruisaient d'énormes, de gigantesques serres en verre assez anciennes, et un jour je m'y suis retrouvé seul dans le jardin et en lançant un caillou, un carreau s'est cassé et là j'ai entrepris de détruire tous les carreaux de toutes les serres. Et certes, ça a été compliqué après avec mes parents, mais j'avais vraiment l'impression de pouvoir modifier quelque chose. Ça a été un des moments très très forts sur la capacité, avec une petite chose, un caillou. Et je voyais ces formes se dessiner dans les vitres. Je crois que ça a été un moment très fort de compréhension. Et je crois qu'on est sans cesse à la recherche de moments forts comme ça, où le monde peut à un moment nous appartenir.
D'accord,
il me semble que ça a été un des moments où le monde m'a appartenu. C'est un geste innocent mais jouissif d'enfant qui joue avec le monde.
Ouais, et qui définit, c'est étrange de dire ça, mais qui définit déjà beaucoup de choses dans ta pratique en fait. Cette histoire, elle est très emblématique de la manière dont tu construis ton travail encore aujourd'hui.
Oui, je pense, tout à fait. Il y a eu quelques moments clés comme ça, et encore une fois, c'était en totale absence de conscience déjà de faire mal, ça je ne pensais pas du tout, je voyais quelque chose de juste fabuleux.
Jubilatoire,
fabuleux, enfin on peut faire des choses incroyables. J'ai appris par la suite que c'était plus compliqué que ça. Mais surtout que la question de la destruction ne s'arrêtait pas là. Donc je crois pas détruire, je crois modifier.
Et justement, tu parles de ce rapport à l'enfance, aux gestes, qu'on ne mesure pas tous les enjeux et qu'on effectue avec naïveté, même s'ils sont très éclairants sur certaines choses. En fait, cette importance du quotidien, du vécu, sur ta pratique, me donnait envie de parler avec toi de la pièce, justement, qui se situe à côté de nous, qui est une pièce sonore. Une pièce construite à partir d'une réalité très prosaïque. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur...
Oui, alors ça s'appelle L'enfant et la machine. En fait, c'est je suis parti des pleurs d'un enfant, enfin en l'occurrence d'un bébé, et essayer de, par différentes techniques logicielles, donc à partir d'ordinateurs, d'analyse spectrale d'un son, d'en retirer les harmonies et les transformer en une partition pour piano seul. Donc effectivement, dans le spectre sonore du pleur d'un enfant, il y a tout un tas de notes. Et une fois extraites, elles peuvent être transformées en une réelle partition et être jouées. J'ai un jeune enfant et ses pleurs font partie de ma vie et c'est aussi des moteurs pour moi pour travailler ces choses aussi proches.
Donc aussi interpréter quelque chose qui n'est pas forcément évident a priori à comprendre, enfin les pleurs d'un enfant.
Ouais, c'est quelque chose face auquel on est complètement perdu, on ne sait pas, mon enfant pleure, qu'est-ce que je fais? Je ne le comprends pas. Donc essayer de s'attacher à une petite partie compréhensible peut-être, avec toute l'absurdité de cette action, puisque finalement je passe par des logiciels, donc la machine, et essayant de comprendre quelque chose aux pleurs d'un enfant. J'aime aussi la distance que ça fabrique. Et finalement, ça produit une partition tout à fait possible et un morceau de piano en est issu. Je crois que lorsque Laurence m'a invité à faire cette exposition dans la galerie, on avait ensemble envie de montrer au sein d'une même exposition différents... axes de ma pratique. C'est aussi peut-être pour ça qu'on y trouve des choses très formellement différentes et des approches assez différentes qui se rejoignent toujours par des questions qui me sont proches et répétitives. La question du rebut aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais il y a cette petite porcelaine que je montre qui est qui sont en fait les ébarbures que j'ai récupérées dans une usine de porcelaine en Russie. C'est une usine de porcelaine qui appartient à l'église orthodoxe et qui fabrique notamment, alors en partie, des objets du clergé, mais également les vaisselles officielles du gouvernement. Et donc j'ai récupéré ces ébarbures encore fraîches qui sont jetées pour être pour que la matière puisse être réutilisée. Donc je les ai prélevées pour qu'elles soient intactes dans la manière avec laquelle elles avaient été comprimées comme des sortes de petites boules de déchets. Et j'ai demandé à ce qu'on les remette dans le processus de cuisson pour en refabriquer des porcelaines. Donc il y avait aussi ce jeu comme ça de ramener... alors je la présente aussi avec la petite boîte parce que j'ai ramené ça de Russie au travers les différents aéroports et trains sans transport dire classique pour transporter une œuvre et donc voilà, il y avait ce défi de ramener ces petites choses de là-bas avec cette fragilité, donc c'était une surprise de les avoir entières.
Ouais, puis le format aussi est assez assez modeste, c'est réduit comme et là il contient aussi la modestie justement de ces objets, ils sont plutôt des objets de déchets comme tu dis, ou d'évaluer que tu entraînes à nouveau, enfin que tu entraînes dans le cycle de production normal, l'objet précieux et cette ce procédé, enfin ce processus est intéressant et fonctionne bien aussi avec les cages justement.
Qui sont elles sont un peu en écho parce qu'effectivement, ce sont ces petites choses par terre.
Ouais.
Que je trouve magnifique lorsqu'on s'attarde un peu à les regarder, mais surtout c'est pas seulement ça, c'est pas seulement des ready-made parce que finalement les cales de porte, il y a le filtre de la photographie.
Oui.
J'ai décidé de ne pas les montrer, mais de montrer les photographies de ces cales, ou alors ces ébarbures de porcelaine, enfin qui n'étaient pas de la porcelaine, qui étaient encore en état humide. Je ne les montre pas telles quelles puisque je les remets dans un processus pour qu'elles soient cuites jusqu'au bout et qu'elles soient finalisées avec la même avec le même précieux qu'on peut apporter à une porcelaine. Donc voilà, je ne crois pas dans ces cas-là travailler qu'avec cette notion de ready-made, mais il y a toujours une petite modification de ma part qui permet aussi un petit peu de révéler d'autres choses.
Peut-être, oui, pour revenir sur le titre de ton exposition, Excepté le soleil, je me demandais si ça en fait amenait aussi une lecture, on pourrait dire entre guillemets, ou plus existentielle des choses, justement de. Enfin, on peut imaginer des scénarios, l'absence de soleil, c'est aussi. Il y a tous ces scénarios un peu de science-fiction, de mort thermique, etc., qu'on peut imaginer de la planète, et qui... je dis ça parce que ton carton, l'image qui accompagne l'exposition aussi, est une terre brûlée, et cette dimension, en fait, d'absence de lumière, est-ce que pour toi, elle fait écho au niveau plus existentiel?
Oui, bah, y a le rapport, effectivement, la fin des choses, puisque je propose souvent des choses qui sont proches de la fin, mais qui ne sont pas finies dans leur... qui existent encore. Et j'aime bien cet équilibre entre la possibilité de disparaître, mais encore être là. Plusieurs projets sur lesquels j'ai travaillé, comme lorsque j'ai... retirer le bois d'une chaise, enfin de deux chaises au maximum, mais encore, ça reste une chaise, on ne peut plus s'y asseoir, elle est trop fragilisée, mais elle disparaît presque, mais elle est encore là. Oui, cette petite frontière, j'aime bien créer des fragilités en fait, soit travailler avec des choses fragiles, soit créer des fragilités. Et Est-ce qu'il y a une forme d'existentialisme? Évidemment, oui, je pense, si on se met à fabriquer des choses, c'est bien qu'on, je crois, on est habité par une forme d'existentialisme. Mais je crois que finalement, tout ça, ce sont des questions presque d'autoportrait de l'humanité, quoi. On est tous en lente destruction, et si on regarde bien, c'est assez beau.
En fait, aussi, on pourrait presque plus que parler d'obscurité, parler de pénombre dans un seuil.
Oui, je crois que c'est plutôt la pénombre qui m'intéresse.
Qui m'intéresse.
Ouais, tout à fait.
L'obscurité.
Ouais, dans la pénombre et quelques petits éclats de lumière.